France Culture.
Hildegarde de Bingen, génie cosmique. Une grande traversée d'Aurélie Sfez et Benjamin Hue. Épisode 4, et Dieu créa le matriarcat.
Une des images les plus connues effectivement de tout le monde, ou presque, de Hildegarde.
Laurence Moulinier, historienne spécialiste d'Hildegarde.
La représente assise, la tête levée vers le ciel, vêtue donc avec son habit de nonne bénédictine comme il convient. Elle a entre les mains un objet à fond noir à bordure blanche qui sont sans doute des tablettes de cire sur lesquelles on peut dresser un premier jet d'un écrit. Et entre son visage levé vers le divin et le haut de l'image, il y a des flammes rouges qui très probablement représentent l'inspiration divine dont elle bénéficie, comme les apôtres recevant l'Esprit-Saint à la Pentecôte sous la forme également d'une flamme. Elle est intemporelle sur cette représentation, comme forcément ses cheveux sont cachés en plus. On ne sait pas quel âge elle a. Elle est figée dans un instant de grâce. Elle reçoit un message et il va être immédiatement accessible aux hommes par le travail d'écriture.
Dans la deuxième partie de sa vie, Hildegarde est une femme libre et une bâtisseuse infatigable. Elle a révélé ses visions et elle est devenue une véritable célébrité. Vers ses 50 ans, elle part avec sa troupe de 18 sœurs pour fonder sa propre abbaye au Rupertsberg, toujours en Rhénanie, à un jour de marche au sud de son ancien couvent. Elle a maintenant les appuis du pape et de Bernard de Clairvaux. Alors plus rien ne l'arrête, elle prend la parole quand ça lui chante et s'engage sur tous les terrains, spirituels, artistiques et même politiques. La prophétesse n'a pas peur de mettre en garde l'empereur sur sa soif de conquête, mais aussi les hérétiques et même l'Église, à qui elle reproche souvent sa cupidité. Celle qui se définit comme une petite moniale faible et fragile est en réalité une femme d'autorité et d'influence. Elle est cette géante qui se nourrit de tous les manuscrits, qui laisse vivre son intelligence créatrice et qui écrit pour la postérité. Elle est celle qui compose un drame lyrique qui flirte avec le scandale. À quel point a-t-elle construit son personnage ? On l'admire, on la respecte, parfois on la craint, car pour tout le monde, c'est clair, elle est sous la protection de Dieu. Quelle valeur aurait sa parole sinon ? Et d'ailleurs, est-ce qu'on écoutait ce que les femmes avaient à dire au XIIe siècle ? Hildegarde, femme de pouvoir aux origines de la sororité, artiste libérée et religieuse scandaleuse, est une exception dans ce Moyen-Âge, dans l'histoire de l'humanité et dans celle des femmes en particulier.
Depuis la règle de Saint-Benoît, l'importance est soulignée de la nécessité d'une bibliothèque pour les monastères, pour qu'il y ait à disposition un certain nombre de livres saints, notamment la Bible évidemment, les pères de l'Église, les institutions de Cassien, que sais-je. Et donc, dans l'esprit du fondateur du monachisme bénédictin, il faut un atelier de copie, ce qu'on appelle un scriptorium, et il y a effectivement un atelier de copie aussi au Rupertsberg. Enfin, dès qu'elle fonde sa première communauté, elle la dote de cet atelier de copie.
Retour en Allemagne, à Bingen, dans l'abbaye d'Hildegarde, accompagnée par sœur Philippa.
Venez, on va au scriptorium. Nous avons deux grandes bibliothèques qui se trouvent encore dans leur état d'origine et qui n'ont jamais été rénovées.
Où est-ce qu'on est, sœur Christopha?
On va maintenant traverser le cloître dans ce couloir de 100 mètres de long, juste à côté du jardin.
Et là, derrière nous, dans cette pièce, j'ai regardé, il y a un piano à queue.
Pendant les moments de récréation, nous nous réunissons dans cette pièce pour lire et chanter, car nous avons un chœur. Il y a des sœurs qui jouent du piano parce qu'on pratique le chant grégorien et on se doit d'avoir des connaissances musicales. Elles jouent aussi de la flûte traversière, de l'orgue, du violon, de la flûte à bec. Parfois, on chante du bach. On a des cours de chant une fois par mois.
Comment est-ce que vous l'imaginez physiquement, Hildegarde ?
J'imagine que c'est une petite femme, menue. Elle dit elle-même qu'elle est un peu malade et qu'elle devait garder le lit. Mais peut-être qu'elle était grande et forte, personne ne le sait.
Wir gehen jetzt in die Bibliothek.
On rentre ici, c'est splendide. Les couleurs sont fantastiques. Il y a ces quatre anges qu'on retrouve un peu partout, entre chaque croisée d'ogives.
Il faut dire que cette salle est particulièrement belle. La bibliothèque est toujours le lieu le plus sophistiqué, parce que, naturellement, l'étude, la lecture et les prières sont très importantes pour l'ordre bénédictin. Les trois éléments clés de notre ordre sont lire, travailler, prier.
Est-ce que vous pouvez venir avec moi ? Hop, ici. Alors, on est évidemment dans une bibliothèque, donc il y a des livres partout. Je ne vais pas vous demander tout ce que vous lisez, parce que je ne sais pas s'il n'y a que des livres de théologie ou s'il y a d'autres livres.
Also, hier sehen Sie nur einen ganz kleinen Teil unserer Bücher. Wir haben
vous voyez ici une toute petite partie de nos livres. On en a 350 000 en tout. Il y a des biographies, des livres d'histoire dans le scriptorium, des romans, des livres pour la jeunesse, de la littérature classique. Il faut savoir que c'est une abbaye plutôt jeune qui a été fondée en 1900 et les premières sœurs sont arrivées en 1904. Nous n'avons donc pas de livres anciens comme dans la bibliothèque du Vatican où certains livres ont 1000 ou 2000 ans.
Sœur Christopher, je vois en face de nous, là, vous avez un présentoir avec tous les journaux allemands. Vous vous intéressez à l'actualité ?
Ce sont des journaux qui nous permettent de nous informer sur l'actualité politique et sociale en Allemagne et dans le monde. Et on peut venir les consulter quand on veut. Dans nos traditions, on fait la lecture à table, midi et soir. On possède des livres très variés, des livres religieux, des biographies politiques, des ouvrages d'actualité, des articles sur l'environnement. Il faut que ça soit accessible pour tous et pour tous les goûts, selon la sensibilité des sœurs.
Qu'est-ce qui, en ce moment, vous préoccupe dans le monde ?
Naturellement, on s'intéresse à la politique et on est engagé. Par exemple, il y a eu cette réunion secrète du parti d'extrême droite allemande, l'AfD, à Potsdam, où il était question d'un projet d'expulsion massive des étrangers. Il y a eu des manifestations dans la région de Bingen et nous sommes allés dans les différentes villes en représentant les sœurs pour manifester contre l'extrême droite dans le cortège composé pour partie de religieux.
Da möchten wir schon ein Zeichen setzen, weil natürlich auch der Krieg in der Ukraine.
Il y a aussi la guerre en Ukraine qui nous préoccupe. On prie souvent pour eux. Et puis évidemment, il y a le conflit au Proche-Orient. C'est toujours un sujet brûlant. Compte tenu de l'ensemble de ces conflits, on ne peut pas s'y consacrer à fond. Il faut faire avec.
Direkt uns zu konfrontieren, aber es ist, glaube ich, sowieso heutzutage sehr, sehr schwierig, in dem Flut von
aujourd'hui, étant donné le flux d'informations qu'on reçoit, il faut hiérarchiser tout ça.
Dinge zu informieren, die nicht in den Nachrichten stehen und genauso schlimm sind. Also genauso wie
on participe aussi à des actions pour la protection de l'environnement.
Sie war eine Universalgelehrte.
Hildegarde avait un savoir universel et un regard sur tout. On le voit bien ici avec l'engouement pour la naturopathie, c'est compréhensible. Mais pour nous, c'est plutôt l'abbesse, la théologienne et donc sa force spirituelle qui nous intéresse. Moi, en tant qu'artiste, je suis sensible à son art. Et je remarque que des personnalités très différentes se retrouvent dans plusieurs facettes de sa personnalité. Hildegarde est trop multiple pour qu'on puisse appréhender la totalité de son œuvre.
Und Facetten ihrer Persönlichkeit aufgreifen. Sie ist viel zu vielschichtig, als dass man alleine alles von ihr erfassen könnte.
Dans le monde actuel et dans les conflits actuels, comment le message de paix envoyé par Hildegarde
s'incarne aujourd'hui chez vous?
Das ist jetzt ein Aspekt, der für mich ein bisschen neu ist, Friedensbotschaft, weil natürlich Hildegard von ihrer
Le message de paix, c'est un aspect assez nouveau pour moi. Parce que si on regarde sa personnalité, c'est plutôt une combattante. Hildegard a vécu dans un tout autre monde que celui d'aujourd'hui. Elle devait être engagée sur les questions de la nature ou du vivre ensemble.
Also Pax Friede ist ein ganz wichtiges Wort bei Benedikt in der Regel.
La paix est un mot fondamental pour les Bénédictins.
Hildegard hat auch einen Kommentar zur Regel geschrieben.
Et naturellement, en tant que Bénédictine, ce concept est très important pour Hildegard. Elle questionne l'harmonie entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire la paix sociale incarnée dans le vivre ensemble.
Also diesen militärischen Frieden, wie wir zum Beispiel den
Mais penser la paix comme nous le faisons aujourd'hui, sous l'angle militaire, ça n'était pas vraiment d'actualité pour elle à l'époque. Cet enjeu-là n'a surgi qu'au moment de la guerre de 30 ans.
Das kam hinterher im 30-jährigen Krieg, als der Rupertsberg zerstört worden ist oder so.
On dit souvent que Hildegard est un personnage politique. Qu'elle s'est mêlée, en effet, de politique.
Geneviève Bührer-Thierry, historienne médiéviste.
Est-ce qu'elle est rebelle? Je ne suis pas sûre qu'elle soit rebelle à l'autorité. Elle magnifie la place qui lui a été donnée par Dieu, qui est de dénoncer les abus de ce siècle. Donc, elle se permet d'envoyer des lettres au pape, à l'empereur, pour leur dire « ce que vous faites, ça va pas du tout ». C'est évidemment une forme d'autorité tout à fait exceptionnelle. Elle a écrit plusieurs lettres à Barberousse, elle l'a rencontrée même une fois, hein, avant même qu'il y ait la couronne impériale. Et on dit que dans ce premier entretien, elle lui a prédit qu'il serait empereur. Et elle le met en garde dès le début contre les excès de la toute-puissance. C'est pas rien d'être empereur de l'Empire germanique. Alors Barberousse, là on est en 150, c'est-à-dire on est dans la deuxième partie de la vie d'Hildegarde. Barberousse est un jeune empereur fougueux. Dans un premier temps, il va très bien collaborer avec le pape et dans un deuxième temps, il va mettre l'Italie à feu et à sang. Donc c'est compliqué pour Hildegarde de juger de ce que fait l'empereur.
Maintenant, ô roi, regarde attentivement. Tous les états sont assombris par la foule de ceux dont la noirceur des péchés occulte la justice. Les voleurs et les errants endommage les voies du Seigneur. Ô roi, dompte à l'aide du sceptre de la miséricorde les mœurs paresseuses, versatiles, barbares. Car tu as un nom glorieux, étant le roi d'Israël. Veille donc à ce que le juge suprême qui te regarde ne puisse t'accuser de n'avoir pas rempli correctement ton office, au point que tu en aies à rougir. Particulièrement noires sont les mœurs de ces princes qui se ruent dans la débauche et la boue. Fuis cela, sois au contraire un guerrier en armes qui s'oppose vigoureusement au diable, afin que Dieu ne t'abatte pas et que la honte ne couvre pas ton royaume terrestre. Il est nécessaire que tu sois prudent dans tes actes. Je te vois en effet dans une vision mystique comme si tu étais tout petit, vivant comme un fou sous les yeux vivants. Mais tu as cependant encore le temps de régner sur les choses terrestres. Prends garde à ce que le roi suprême ne te force pas à t'agenouiller, à cause de l'aveuglement de tes yeux, qui ne voient pas que tu tiens dans ta main la verge du bon gouvernement. Veille donc à être tel que la grâce de Dieu ne te fasse pas défaut.
Nous rendons hommage à ta sainteté, car ce que tu nous avais prédit lorsque nous t'avons fait venir auprès de nous à Ingelheim, nous l'avons désormais bien en main.
Ce qui est très frappant dans ces lettres, que ce soit des lettres qu'elle envoie au pape ou les lettres qu'elle envoie à l'empereur, c'est que tout ce qu'elle dit est toujours nimbé d'une sorte de vague, de nuage. Enfin, c'est un peu le principe de la prophétie que c'est obscur. C'est-à-dire, elle ne nomme jamais personne, alors que dans l'entourage de Barberousse, il y a des gens qui font pique-pendre, hein, mais jamais elle ne les nomme. Dans l'entourage du pape, c'est pareil. Est-ce qu'elle est prudente ou est-ce qu'elle use de ce subterfuge habituel de la prophétie qui fait qu'on peut l'interpréter un petit peu comme on veut et que c'est moins dangereux ? Hildegarde est certainement visionnaire au double sens du terme, c'est-à-dire qu'elle utilise ses visions pour en tirer une forme d'autorité, parce que la parole d'une femme n'a pas grande valeur et elle ne parle pas en tant que femme, elle transmet la parole de Dieu, elle n'est jamais qu'un médium. Et en même temps, tout en étant conservatrice, quand on regarde ces femmes du XIIe siècle, elles ont pris la parole de plusieurs manières, mais toujours plus ou moins sous la coupe, en relation, sous la protection d'un homme. Hildegarde, en revanche, elle est une des rares à prétendre être sous la protection directe de Dieu. Elle tire son autorité de ce qu'elle entend, de ce qu'elle voit de Dieu. On ne peut pas douter qu'elle y croit. Ensuite, qu'elle utilise ce don pour construire sa personnalité tellement exceptionnelle, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans sa vie. La vie d'Hildegarde a été écrite pratiquement avant sa mort, puisqu'il y a des éléments autographes de sa propre main. Hein. Et on voit bien qu'elle construit quand même son personnage. C'est-à-dire, une femme qui vient dire « j'ai des visions divines », la première chose à quoi elle s'expose, c'est qu'on lui dise « tu es possédée par le diable ». Donc ça, c'est quand même très, très dangereux.
À mon avis, elle n'a jamais été considérée comme une possédée. Elle a joui, excusez-moi, mais lors de son existence, d'un crédit et d'une autorité absolument incroyables.
François Boflougue, professeur de théologie et historien de l'art.
Et du coup, elle a pu circuler entre différentes institutions monastiques et tout. Personne ne l'a considérée comme toquée et possédée, encore moins. Et en ce sens-là, si vous voulez, elle a même eu une réputation que très peu de femmes au Moyen-Âge, au XIIe siècle, ont eu. Et elle a vécu, du coup, assez longtemps.
Au balcon du Vatican, Benoît XVI fait d'Hildegarde la quatrième femme docteur de l'Église et relance la carrière de la sainte.
Anche in quei secoli della storia, che noi abitualmente chiamiamo Medioevo,
au cours des siècles de l'histoire que nous appelons habituellement Moyen-Âge, diverses figures de femmes se distinguent par la sainteté de leur vie et la richesse de leur enseignement. Aujourd'hui, je voudrais commencer à vous présenter l'une d'entre elles, Sainte Hildegarde de Bingen, qui a vécu en Allemagne au XIIe siècle. Cette grande femme prophétesse nous parle avec une grande actualité aujourd'hui, à travers sa capacité courageuse à discerner les signes des temps, son amour pour la création, sa médecine, sa poésie, sa musique, qui est aujourd'hui reconstruite, son amour pour le Christ et pour son Église, qui souffrait aussi en ce temps-là, blessée également par les péchés des prêtres et des laïcs, et d'autant plus aimée comme corps du Christ. Ainsi, Sainte Hildegarde nous parle de elle.
Pourquoi Benoît XVI l'a érigée docteur de l'Église, à votre avis, en 2012, pourquoi elle, à ce moment-là de notre époque?
Je pense simplement que Benoît XVI avait le sentiment que la part des femmes dans la galerie des saints de l'Église est quand même un peu faible. Bon. Et il s'est dit, compte tenu de l'époque que nous vivons, où l'image, au fond, a une sorte d'importance reconnue par tous, même du point de vue anthropologique, pas seulement du point de vue religieux, je trouve qu'il serait tout à fait opportun de canoniser cette dame. Voilà, c'est ce qu'il a fait, et je trouve qu'il a eu du flair. Bon, moi, je l'applaudis des deux mains, parce que je trouve ça génial. À ma connaissance, il n'y a pas eu de protestation éhontée. Et au contraire, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont trouvé ça tout à fait opportun. Être docteur de l'Église, ça signifie que l'on bénéficie d'une sorte de reconnaissance durable depuis que ça a été prononcé par l'Église et le pape. Bon, et d'une certaine manière, illimité dans le temps, si vous voulez. Bon. Et que du coup, l'on a droit à des égards et à des curiosités de la part de tous les chrétiens, parce que c'est un des lieux où l'on peut se renseigner de façon pertinente sur ce que croit et ce que veut transmettre l'Église.
Elle était déjà idolâtrée par toute une communauté New Age dans les années 70. Aujourd'hui, elle est la sainte patronne de la sororité et le modèle de la femme forte qui a surmonté les épreuves pour construire sa vie.
Bingen, Der Rhein, die Nahe. Reisende aus aller Welt werden uns ihre neuesten Erkenntnisse mitbringen.
Hildegard, ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'elle est bâtisseuse. Parce qu'on dit visionnaire, prophétesse.
Elle... c'est une bâtisseuse et une fondatrice, puisque non seulement elle fonde ce couvent en 1150 au Rupertsberg, enfin elle ranime un lieu qui était un lieu déjà de mémoire, et en 1165, là aussi je vous laisse apprécier l'âge qu'elle a désormais, elle a 67 ans, elle fonde une autre communauté sous l'égide de Saint Giselbert. Donc elle a un côté fondatrice et bâtisseuse pas négligeable. Elle, d'ailleurs, elle aime bien parler de construction aussi dans ses poésies, la construction de Jérusalem, les pierres vives, c'est un thème qui lui est cher.
Jutta meurt et Hildegarde devient la magistrate du couvent féminin.
Léo Henry, romancier.
Donc elle règne sur cette communauté de femmes. Elle est en lien étroit avec un des moines de l'abbaye masculine qui s'appelle Volmar, qui devient à ce moment-là son secrétaire pour l'écriture des visions et qui deviendra son compagnon de vie. Et Hildegarde décide qu'il est temps de partir et d'aller fonder une abbaye féminine isolée et sans les hommes. Le seul homme qu'elle accepte d'emmener, c'est donc Volmar, donc parce qu'elle a besoin d'un confesseur. Mais sinon, c'est uniquement des femmes qui partent. Et donc ça crée un clash à l'intérieur de l'abbaye, parce que l'abbé Cunon a aucune envie de voir partir Hildegarde, qui commence à devenir célèbre, donc qui amène des visiteurs et qui amène du coup de l'argent et du prestige à son abbaye. Hildegarde retombe très malade, jusqu'à ce que finalement Cunon soit obligé de céder. Et là, elle part avec la poignée de femmes qui acceptent de la suivre, parce que le projet est complètement zinzin, en fait, d'aller s'établir à un endroit où il n'y a pas de couvent, en pleine nature, avec que des femmes, en suivant les désirs de Hildegarde. Et donc c'est là qu'elle descend la rivière qui coule en bas de la colline, et elle arrive à l'endroit où Lana se jette dans le Rhin. Donc c'est là qu'elle construit un couvent, c'est là qu'elle termine de rédiger le Scrivias, et puis qu'elle fait tous ses livres de vision, et Lordo Virtutum, donc qui est cette pièce de théâtre chantée, qui est représentée pour la première fois dans la nouvelle abbaye de Bingen.
Quaes aut unbevelis, tu amplexate est me et ego foras eduxite, sed nunc in reversione tua confundis me. Ego autem pugna mea deiciam te.
I say music drama, yeah. Some people call it a moral.
Moi, je dis que c'est un drame musical. Certains appellent ça une pièce morale, mais il ne s'agit pas de moralité. D'autres parlent de drame liturgique, mais ce n'est pas non plus liturgique.
Benjamin Bagby, directeur de l'ensemble musical Sequentia.
C'est un opéra dans le sens où il y a des chants et une histoire. Il y a des personnages, il y a des gens qui incarnent ces personnages. Cela raconte une histoire en musique.
Volmar. Volmar, c'est le diable. Tout de suite.
Well, he's the only man in the cloister. He has no choice.
C'est le seul homme du cloître. Il n'a pas le choix. On suppose qu'il interprète le diable en parlant, parce que le diable ne chante pas. Hildegarde dit dans ses manuscrits que le diable a une voix rugueuse. Ce n'est pas un gentleman du 19e siècle, ni Mephisto. C'est une bête horrible avec une voix criarde. Et on aimerait voir Hildegarde dans le rôle de l'humilité. Elle dit « Je suis la reine des vertus ». Donc oui, c'est la reine. Elle est au centre, elle fait le show. Il faut garder à l'esprit que Lordo Virtutum vient d'une vision d'Hildegarde dans le Scivias. Au début de sa vie, elle a eu cette vision de la vertu qui se bat contre le diable. Plus tard, elle a mis en musique cette vision. Cela vient donc de quelque part au plus profond de son histoire, une histoire visionnaire. Et une fois qu'elle s'incarne dans le drame et devient le personnage de l'humilité, elle n'est plus la fragile Hildegarde. Elle prend le masque. Elle défend ses nonnes en disant qu'elles sont les épouses du Christ. Pourquoi devraient-elles être moins belles que n'importe quelle autre mariée d'une famille aristocratique, d'autant qu'elles appartiennent à la plus aristocratique de toutes, la famille du Christ? Il n'y a donc aucune raison de cacher leur beauté.
Elle a très bien réussi à faire fonctionner son deuxième monastère. Et elle était respectée par des hommes puissants autour d'elle.
Hildegard von Bingen a certainement un style.
Sophie Janin, directrice de la maîtrise musicale de Radio France.
Sa vision de la force verdoyante, la puissance de la survie de n'importe quelle plante, de n'importe quel humain, elle est omniprésente dans sa musique. Il y a un pouvoir, il y a un dynamisme et je dirais une effervescence dans sa façon de faire de la musique, comme si cette force verdoyante qu'elle voyait de Dieu était également présente en elle. Pour moi, elle est tout simplement l'artiste sensible et expressive. Ce qui est important, c'est qu'elle a réussi à accomplir tout ça, étant une femme dans son époque, avec tous les obstacles dans son chemin. C'était la première à être vraiment reconnue comme une autorité dans beaucoup de matières. On sait de sa vie qu'elle voyageait pour partager ses savoirs, ses connaissances et ses acquis. Et d'avoir une femme dans cette autorité-là, pour moi, c'était une grande première. Elle est très contemporaine dans le sens où on sent qu'elle fait des choses par une inspiration personnelle, par un souhait de développement, un chemin, un parcours qu'elle fait par besoin créatif. On devrait tous regarder la vie de Hildegard et ça, pour moi, ça m'apporte beaucoup de réconfort aussi. Parce que elle, bien évidemment, elle avait des contraintes. Et quand on regarde la liberté qu'elle avait, la créativité qu'elle avait, la stimulation qu'elle ressentait et son niveau de productivité, vivant dans son époque, eh ben, qu'est-ce qui nous empêche d'aller réaliser nos rêves les plus fous? On a tous à se nourrir des esthétiques et des styles différents. Pour ma part, je serais tellement plus pauvre dans ma musique si je me limitais à écouter des choses qui viennent de ma propre tradition, de ma propre connaissance, de pas aller découvrir autre chose. Et Hildegard, et sa musique, son art, sa spiritualité, sa réflexion sur le monde et sur elle, sur la nature, sur Dieu, ça nous transporte, ça nous fait vivre des choses, ça nous inspire. Et c'est merveilleux, ça. Je pense qu'elle était absolument féministe, vu que elle déjà ne se plie pas aux normes des femmes de son époque, que elle va prendre la place qu'elle estime qu'elle a le droit de prendre. Déjà, c'est un acte, on va dire, politique. Et je pense comme sa vision sur l'homme et la femme n'est pas du tout dans un système bêtement organisé dans un patriarcat. Elle parle de communauté. Elle parle de sororité, de fraternité, mais pour moi, ça a toujours excédé les genres. Et pour ça, bien évidemment, c'est une féministe foudroyante.
La deuxième vision d'Hildegard porte sur l'homme.
François Boflug.
L'homme est le sujet central de cette construction, de nouveau assez savante. Je remarque que c'est un Adam totalement nu, sans sexe d'ailleurs, le symbole du genre humain, mais on a l'impression, si vous voulez, que l'homme est entouré d'une cour animale qui montre qu'il n'est pas la seule créature vivante, si vous voulez, dans la création de Dieu, mais que cette création d'Adam a été précédée ou accompagnée de la création du monde animal. Et c'est assez bien trouvé. Ça aussi, je trouve, c'est un des génies de notre héroïne, Hildegard, parce qu'elle connecte.
Mais que la première femme ait été formée de l'homme, cela indique l'union matrimoniale de l'homme avec la femme. Et il faut le comprendre ainsi. Cette union ne doit pas être contractée à la légère et dans l'oubli de Dieu, parce que celui qui forma la femme d'une côte de l'homme institua cette union pour le bien et pour l'honneur, en formant la chair de la femme de la chair de l'homme. C'est pourquoi, de même qu'Adam et Ève ne firent qu'une seule et même chair, l'homme et la femme ne forment qu'une chair dans l'union de charité pour multiplier le genre humain.
Alors, si l'on compare l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci et la représentation de l'homme par Hildegard de Bingen, on prend le risque, si vous voulez, de rapprocher des images qui apparemment ont le même sujet, mais appartiennent à des époques tellement différentes d'orientation psychologique, cosmographique, etc., qu'on risque, si vous voulez, des rapprochements un petit peu aléatoires, aventureux. Bon. Léonard de Vinci a-t-il été en contact avec cette représentation d'Hildegard de Bingen? Ça n'est pas impossible, mais les génies inventent quelque chose de complètement neuf. Et elle, alors je suis estomaqué, si vous voulez, de cette capacité de synthèse qui n'a plus rien ni de féminin ni de masculin, qui est géniale du point de vue humain et conceptuel.
Adam, en effet, pouvait incriminer son épouse de ce que, par son conseil, elle lui avait apporté la mort. Mais il ne la quitta pas, parce qu'il connut qu'elle lui avait été donnée par Dieu. Parce que, de même que le sang ne peut être séparé de la chair tant que la vie réside en elle, ainsi le mari et l'épouse ne se séparent pas l'un de l'autre, mais ils vont ensemble, n'ayant qu'une même volonté. La femme a été créée pour l'homme, et l'homme a été fait pour la femme. Parce que, ce que celle-ci est touchant le mari doit l'être touchant la femme, de peur que l'un ne se sépare de l'autre dans l'unité de leur progéniture, car ils accomplissent ensemble la même œuvre, comme l'air et le vent mêlent leurs efforts dans un but commun. Comment ? L'air est agité par le vent, et le vent tourbillonne dans l'air de telle sorte que dans leur évolution, toutes les plantes verdoyantes leur sont soumises. Que signifie cela ? La femme coopère avec le mari à la procréation des enfants, d'où résultent de grands crimes quand la fornication, au jour de la procréation des enfants, engendre la division. Parce que l'homme et la femme retranchent leur propre sang du lieu où il a pris sa source pour le rejeter dans un autre.
Quelle est la place de Ève pour Hildegard ?
Alors, Ève, c'est celle par qui quand même le malheur arrive. À l'époque, il y a
Laurence Moulinier.
Sinon, un jeu de mots, disons, un anagramme qui est connu des lettrés, c'est que Eva, ça se retourne en Vae, qui veut dire malheur, mais ça se retourne aussi en Ave, qui salue la Vierge. Donc, c'est sûr que Ève a apporté le péché, mais alors là, elle a une vision effectivement très positive pour la femme. Elle estime que c'est un grand bonheur que ce soit Ève qui ait péché et pas Adam. Parce qu'elle dit que c'était Adam. Comme il est endurci, on aurait été dans l'incorrigible absolu. Alors qu'à ses yeux, le fait que ce soit Ève, un être plus ductile, une femme plus malléable, plus docile, on a pu racheter la faute, et c'est le thème de la felix culpa en latin. Elle n'est pas la seule à le développer, la faute heureuse en quelque sorte. Les dégâts qui auraient pu être pires, si je veux le dire de manière très prosaïque. Et dans sa vision, encore une fois, extrêmement favorable à la femme, ça a permis justement que le pendant rédempteur, ce soit vraiment la Vierge.
Hildegard n'est pas misogyne, c'est certain. Et pour elle, l'homme et la femme sont absolument complémentaires.
Geneviève Bührer-Thierry.
Maintenant, quand on parle des femmes et de la bulle, en quelque sorte, de liberté que Hildegard a tenté de préserver dans son monastère, il faut bien voir que des vierges dans un monastère, ce ne sont pas des femmes. Ce ne sont pas des femmes parce que, justement, elles ne sont pas là pour engendrer rien de charnel. Elles sont les fiancées du Christ. À ce titre-là, en tant que vierges, elles peuvent chanter les louanges du Christ. C'est elles qui sont le mieux placées avec leur voix virginale pour s'approcher de la musique du paradis. C'est ça que fait Hildegard quand elle fait chanter ses moniales. Et elle estime, là, pour le coup, on peut dire qu'elle est vraiment très originale. Rien n'est assez beau pour l'époux céleste, même pas la beauté de ses vierges. Et donc, Elle fait, en effet, on le sait par la fameuse lettre que lui adresse une abbesse, Tangwitch d'Andernar, qui lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu fais chanter tes filles qui lâchent leurs cheveux, mettent des voiles de soie, des bagues dorées aux doigts. C'est pas du tout ce que dit Saint Paul qui dit « La femme doit baisser le regard et couvrir sa chevelure. » Et elle répond dans une lettre très très argumentée « Mais mes vierges ne sont pas des femmes. » Ce que dit saint Paul, c'est bon pour les femmes mariées. Mais mes vierges, leur mari, c'est le Christ. Donc, elles montrent leur beauté au Christ en cercle fermé. Il n'y a pas d'homme. Alors, il y a le moine, là, qui joue un peu le diable. Voilà. Mais ça ne va pas chercher très, très loin. Voilà, elle se défend comme ça. Tangwitch est jalouse. Je pense qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle est très âgée aussi. Elle ne comprend pas ce qui se passe.
Tangwitch, supérieure des sœurs d'Andernach, à Hildegard, supérieure des épouses du Christ, en priant qu'elle fasse partie un jour des âmes les plus haut placées dans le ciel. La réputation de votre sainteté et votre renommée volant partout a fait retentir à nos oreilles certains prodiges admirables et stupéfiants et nous a vivement recommandé, à nous qui sommes insignifiantes, l'excellence de votre conception particulière de la vie religieuse. Un grand nombre de personnes nous ont appris qu'un ange vous révèle, pour que vous les mettiez par écrit, de nombreux mystères célestes, difficiles à comprendre par nous autres mortels, et qu'il vous ordonne d'accomplir certaines choses, non parce que vous en auriez délibéré avec vous-même, mais parce que Dieu lui-même les commande. Nous avons aussi entendu parler d'une habitude étrange qui vous est propre. Les jours de fête, vos vierges chantent les psaumes, debout dans l'église, les cheveux défaits, portant en plus de leurs robes de longues voiles de soie blanche qui descendent jusqu'à terre. Des couronnes en filigrane d'or, décorées de croix à l'avant et à l'arrière, sont posées sur leurs chevelures. La croix qu'elles portent sur le front est joliment gravée d'un agneau. Et de plus, leurs doigts sont ornés d'anneaux d'or à l'encontre des recommandations expresses du premier berger de l'Église dans ses épîtres, prescrivant aux femmes de se comporter de manière décente, sans se parer ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. En outre, ce qui nous paraît tout aussi étonnant, vous faites entrer dans votre communauté uniquement des femmes issus de familles nobles et respectées, par contre, vous en excluez toutes celles qui sont de basse extraction et de moindre fortune. Aussi fortement troublés, nous éprouvons de graves doutes et incertitudes en songeant et ressongeant au fait que notre Seigneur lui-même a accepté de pauvres pécheurs et d'humbles hommes au sein de la première Église. Ô vénérable épouse du Christ, une conduite aussi nouvelle que la vôtre excède de fort loin notre faible entendement et cause notre profond étonnement. Aussi, bien que nous nous réjouissions du fond de notre cœur, nous, femmes insignifiantes, il nous a semblé légitime d'envoyer à votre sainteté cette modeste lettre en demandant humblement et avec un grand respect à votre honneur de daigner nous répondre sans tarder en nous précisant quelle est l'autorité dont vous vous réclamez pour justifier une telle conduite religieuse. Adieu, et souvenez-vous de nous dans vos prières.
Si on veut parler de la manière dont vivent les femmes à l'époque d'Hildegarde, on peut déjà considérer qu'il y a deux grands blocs de femmes, celles qui sont dans le siècle et celles qui sont dans l'Église. Si on parle de l'aristocratie, une jeune fille de l'aristocratie n'a pas forcément le choix entre rester dans le siècle, c'est-à-dire se marier et avoir des enfants, ou aller au monastère. Mais en gros, ce sont les deux choix qui s'offrent à elle, que ce soit elle qui choisisse ou que ce soit ses parents et souvent son père qui choisissent pour elle. Il y a beaucoup de jeunes filles de l'aristocratie, et surtout en Germanie, qui sont élevées au monastère et qui ensuite sortent pour se marier. Ce qu'on attend d'elles, c'est bien entendu qu'elles offrent une descendance autant que possible masculine à l'époux qu'on leur a choisi, mais c'est aussi qu'elles soient capables de gérer tout ou partie du patrimoine, y compris dans des dimensions politiques, à une époque où cette aristocratie, justement, est quand même massivement décimée par la croisade. Il faut voir que la croisade, ça a pour conséquence que les chefs de famille ne sont pas là. Ils sont partis. Et à qui ont-ils laissé la gestion des biens ? À leurs femmes. Donc, si vous voulez, ça veut dire que ces femmes de l'aristocratie, elles ont un immense pouvoir, hein, en réalité, de gestion des biens, quand les hommes ne sont pas là. Elles occupent une position politique, sociale, institutionnelle très importante. Après, il y a les femmes qui sont au monastère, et surtout celles qui peuvent devenir abbesses de monastère, comme Hildegarde, sont dans des positions de pouvoir extrêmement importantes. Leur parole a un poids, une autorité extrêmement grande. Pas si grande, évidemment, que celle des abbés, que celle des hommes. Mais bon, ce sont souvent des femmes extrêmement instruites, hein, et qui jouent un rôle, alors particulièrement dans l'Empire germanique. Elles ont la culture, elles écrivent en latin, parfois même elles savent le grec. Elles composent de la musique, déjà. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique du monde germanique. Et c'est pas étonnant que Hildegarde soit aussi un personnage de Rhénanie. Hein. Les plus grands monastères, les plus grands centres de culture au 10e, 11e siècle sont en réalité en Saxe et en Rhénanie. Et c'est dans ce renouveau du 12e siècle que ce centre va basculer plus ou moins vers le royaume de France, avec notamment le grand développement de ce qui va devenir l'université, hein, des écoles parisiennes. Après, il y a une troisième catégorie de femmes, ce sont les femmes du peuple, que ce soit dans les villes qui commencent à se développer ou dans les campagnes. Elles s'occupent en particulier beaucoup des animaux. Et celles-là, elles ne vont pas au monastère. Parce que pour entrer au monastère, il faut payer d'une certaine manière. Il faut apporter une dot, exactement comme quand on se marie. Ces monastères sont réservés véritablement à l'élite et Hildegarde d'ailleurs y tient énormément. Elle dit qu'elle ne veut pas accueillir de filles pauvres parce que c'est pas leur place. Hildegarde n'est pas du tout pour la mixité sociale, hein. Elle pense que chacun doit être à sa place, c'est en ça qu'elle est très conservatrice. Et être au monastère, c'est la place de l'élite. Et l'élite intellectuelle, pour elle, c'est la même chose que l'élite sociale. Il n'y a pas d'ascenseur social par la connaissance. Ça, c'est quelque chose qui ne lui vient pas à l'esprit.
Je veux que mir jeder ein Kraut zeigt, das sie schon kennt. Schöllkraut. Und das ist gut gegen Warzen. Schwester Bertha, reinfahren. Gut gegen Rheuma und Gicht. Schwester Clara, das ist die Schafgarbe für die Wundheilung.
On peut bien imaginer que entre toutes ces petites filles et ces jeunes filles comme Hildegarde, Jutta, qui étaient ensemble au monastère, se créaient des liens de sororité, comme on dit aujourd'hui. Bon, sororitas, ça existe évidemment en latin, mais c'est quand même pas très courant à ma connaissance dans les textes. Le monastère est un lieu clos dans lequel on ne peut pas évidemment idéaliser les relations entre les personnes. Bien sûr qu'il y avait des filles qui s'entendaient bien et qui se considéraient comme de vraies sœurs. Et il y en avait aussi qui se détestaient, comme dans toute communauté. Ça, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Alors, on a quand même des traces à plus haute époque dans les monastères saxons de femmes qui jouaient un rôle très important dans l'aristocratie dans la deuxième moitié du Xe siècle. On a trouvé des mentions dans les manuscrits deux jeunes filles qui écrivent ensemble leur nom, comme aujourd'hui, hein, dans un journal de bord. Bon, voilà, on va écrire le nom de ses copines. Voilà, on a ça. Donc, bien sûr, ça existe. Et bien sûr que c'est l'idéal vers lequel on doit tendre. Hein. Les moniales sont des sœurs. Elles sont des sœurs dans le Christ. C'est plus fort que d'être sœurs par le sang. Ça, c'est essentiel au Moyen-Âge. Hein. Tout ce qui est spirituel, tous les liens spirituels sont plus forts que les liens charnels.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Bienvenue.
Merci.
Dans les coursives de la communauté de Monial, je retrouve sœur Philippa au réfectoire.
Also hier ist unser Refektorium. Wir essen in Stille.
Nous voici au réfectoire.
Ici, on mange en silence, on peut lire un livre ou un journal. On a deux hommes cuisiniers qui nous font à manger. C'est fini les femmes au foyer aujourd'hui, et c'est pareil ici.
Est-ce que vivre dans une communauté de filles, est-ce que pour vous c'est un monde idéal ?
On n'est certainement pas dans un monde idéal. Nous sommes 36 femmes de 30 à 95 ans de toutes les régions de l'Allemagne et aussi de l'étranger. On est un grand mélange et il y a bien sûr des conflits. Parfois c'est tendu et on essaie de trouver des solutions pacifiques. Un monde idéal, sûrement pas. Allumons la bougie de Pâques pour bénéficier de l'esprit saint pendant cet entretien.
Vous, sœur Philippa, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez Hildegarde ? Qu'est-ce que vous aimez le plus chez elle ?
Ihre Klugheit, natürlich. Ihr Mut.
Son intelligence, son courage qui est très important pour moi. Elle écrivait et correspondait avec les grandes personnalités de son temps, l'empereur, le pape, avec les hommes en général. Elle était capable de se mettre dans la peau de tout le monde. Et elle a surtout proclamé la croyance chrétienne partout où on l'avait oubliée. On peut d'ailleurs faire des comparaisons avec aujourd'hui. Les hommes ont oublié la croyance. Ils ne savent même plus quoi faire avec. Elle a fait la leçon à l'empereur Barberousse. Le sermon qu'elle lui a fait sur la pénitence au clergé de Cologne serait tout à fait d'actualité aujourd'hui. Elle était une personnalité combative, très déterminée et claire. C'est ce genre de personnalité qui nous manque aujourd'hui.
Dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inquiète ? Qu'est-ce qui vous préoccupe ?
En ce moment, on arrive dans une époque où il y a beaucoup de dictateurs. Il y a des dictateurs partout. En Europe, il y a encore quelques exceptions, en France et en Allemagne, mais tous les autres régimes sont soit autoritaires, soit dictatoriaux. À la fin, c'est celui qui est le plus violent qui est le vainqueur. L'état de droit n'a plus aucune chance. Est-ce que le monde devient fou ? Non, il l'est déjà. Il perd son équilibre. On n'a plus de repères pour s'orienter et créer sa vie. Alors c'est l'arbitraire qui gouverne. Ce qui est grave aussi, c'est que l'Église a perdu sa crédibilité à cause de tous les abus, les scandales financiers. C'est un énorme problème. Mais on peut se consoler et se réjouir parce qu'on a de plus en plus de visiteurs dans nos cloîtres. Il y a une quête de retrouver du sens dans cette vie, et parfois les grandes crises ont du bon pour repartir à zéro. Peut-être qu'on en est là, à ce moment, pour tout reconstruire, et c'est ce que j'espère.
Pour vous, sœur Philippa, aujourd'hui, où est le bien et où est le mal ?
Je suis convaincue qu'il n'y a pas le mal en soi ou le bien en soi. Il y a toujours du gris. Il y a énormément de nuances. Même Sainte Hildegarde n'est pas toujours irréprochable. Elle avait une personnalité difficile et les sœurs ont dû parfois souffrir sous son autorité. Elle était très exigeante avec elle-même et avec les autres. Le monde n'est pas noir ou blanc.
Pendant la guerre, l'abbaye a été réquisitionnée par les nazis. Vous pouvez nous raconter ce qu'est devenu l'abbaye pendant la Deuxième Guerre mondiale ?
Genau, im Zweiten Weltkrieg 1941.
En 1941, la Gestapo a débarqué et les sœurs ont eu 24 heures pour quitter la maison.
Innerhalb von 24 Stunden das Haus verlassen. Und sind dann wiedergekommen nach
Ensuite, elles sont revenues après la guerre. Et pendant 4 ans, elles étaient éparpillées partout. Pendant ce temps, la Gestapo a installé ici un hôpital militaire. Il y avait des blessés de guerre partout. On pratiquait les opérations dans la cave, la même qui est aujourd'hui notre cave à vin. C'était une période très difficile pour les sœurs. La Gestapo était là avec des mitraillettes. Elle a rassemblé toutes les sœurs en cercle et la mère abbesse a fait un dernier discours. Elle a dit « Cher monsieur de la Gestapo, le règne de Dieu dure plus longtemps que le Reich, prétendument millénaire des nazis. » Et en s'adressant aux sœurs, elle a rajouté « Je vous donne rendez-vous ici le 2 juillet après la guerre. » Cette déclaration aurait pu la faire fusiller, mais les nazis sont restés sans voix. Et 4 ans après, c'est arrivé. On s'est toutes retrouvées ici.
Qu'est-ce que c'est que cette cloche ?
C'est un gong ?
C'est un gong.
Lorsque nous devons rejoindre le chœur pour la prière, nous envoyons ce signal-là.
Qu'est-ce qu'elle représente, Hildegarde, en Allemagne ? C'est votre Jeanne d'Arc à vous ?
Elle n'était pas tellement connue pendant des siècles. Et surtout, après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, c'est là qu'elle est renaissance.
Margaret von Trotta, cinéaste.
Parce que pour les nazis, bien sûr, ce n'était pas un exemple. Une femme de cette force et une femme religieuse, ce n'était pas leur théorie. C'est souvent les petites filles des nazis s'appelaient Hildegarde. Mais ça n'avait rien à faire avec la vraie Hildegarde. C'était le nom, parce que c'est un nom très teutonien, un nom comme on dit, teuton.
Est-ce qu'on apprend Hildegarde à l'école, en Allemagne ?
Ça, c'est une bonne question, parce qu'à mon âge, quand j'étais à l'école, non, pas du tout. Mais pas du tout. Maintenant, je ne sais pas, peut-être s'il y a une professoresse qui aime Hildegarde, sûrement elle va en parler, mais ce n'est pas le devoir.
C'est étonnant parce que c'est quand même une femme modèle.
Oui, mais qui veut des femmes modèles ? Les femmes. Elle était féministe avant le temps de parler du féminisme. Elle ne le savait pas elle-même. Elle croyait qu'elle était la soumise à Dieu. Mais elle a quand même réalisé ses rêves et son besoin d'indépendance pour elle et pour les autres. Pour nous, c'est le féminisme aussi. Mais elle n'aurait jamais dit « je combats pour moi-même ». Non, c'est Dieu qui me le dit, non. Elle a toujours dit « moi je suis faible, je suis rien du tout ». Elle n'a jamais dit « c'est moi ». Autrement, elle aurait été enflammée tout de suite sur l'échafaud, comment on dit l'échafaud ?
L'échafaud.
L'échafaud, elle aurait fini par au échafaud.
Elle aurait fini brûlée au bûcher ?
Oui.
Vous, vous avez été élevée par une mère ou par une femme ? Forte, qui vous a encouragé à être ce que vous êtes ?
Absolument. J'ai vécu avec ma mère pendant toute mon enfance. J'avais seulement elle comme référence. Et j'ai connu enfin, les garçons et les hommes, etc., peut-être à 14 ans ou à 12 ans. Donc j'étais envahie aussi à l'école, non ? On n'avait pas de garçons dans l'école. J'avais la chance d'avoir une mère très émancipée, très intelligente, très, qui m'a toujours encouragée aussi de me rebeller. Ça, Hildegarde n'avait pas. Elle a tout dû faire de soi-même.
En Allemagne, dans les années 70, vous avez fait partie de mouvements féministes ?
Bien sûr. J'étais féministe, disons, dès le début, parce que ma mère m'a enseigné d'avoir ma propre tête, d'avoir mes propres désirs, de ma propre volonté, etc. Mais à l'école, bien sûr, on a vu une autre image, non, qu'on voulait de nous. Donc j'ai toujours dû me défendre contre cette volonté à l'école. Qu'on ne se rébelle pas, qu'on... Non, c'est la soumise. Ça venait aussi du nazisme, parce qu'avant, les femmes étaient beaucoup plus libres. Avant que les nazis arrivaient, il y avait beaucoup de femmes qui étaient déjà médecins ou avocates, etc., qui ont dû renoncer à leur vie et à leur
carrière.
Carrière, pour devenir mère et pour créer des enfants. Je me reconnais dans son ambition de devenir elle-même. Et petit à petit, elle comprend ce qu'elle peut faire, ce qu'elle est capable de faire, non ? Et ce désir de devenir soi-même et de mener peut-être aussi des autres de devenir eux-mêmes, ça c'est bon désir toujours. Et maintenant aussi dans ma vie, j'essaye tous les jeunes femmes ou les jeunes réalisatrices qui viennent derrière moi de les aider, quoi, de dire voilà, faites, allez-y, n'avez pas peur.
Vous, pourquoi, sœur Christopha, pourquoi à 20 ans, vous avez décidé de rentrer dans les ordres ?
Warum heiraten Sie jemanden oder verlieben sich in irgendjemanden? Können Sie das erklären?
Pourquoi vous mariez-vous ? Et pourquoi tombez-vous amoureuse ? Comment l'expliquer ? Je sais juste que quand j'étais petite, j'ai suivi un enseignement religieux et j'étais très pratiquante. J'ai fait connaissance avec les femmes d'ici et ce qui m'a fascinée, c'est de vivre de mon travail en communauté et aussi le fait de prier toutes ensemble. J'ai tout de suite décidé d'y rentrer. Ici, on est comme dans une grande famille avec différentes composantes psychologiques et sociales, mais où l'aspect religieux finit par prendre le dessus en général.
Erst in einer vertieften Wahrnehmung eigentlich wirklich wichtig werden.
On parle aussi de sororité, et en ce moment le mot est très à la mode. Est-ce que vous aussi, vous vivez en sororité ici ? C'est le mot ?
Ja, natürlich, wir sind eine schwesterliche.
Oui, on vit en communauté de sœurs. C'est une question sociologique et psychologique. 365 jours par an, 24 heures sur 24, avec aujourd'hui 35 femmes tout le temps ensemble, ça peut générer des conflits énormes. On appartient toutes à différentes générations, on a des parcours de vie très variés et on n'a pas toutes les mêmes dispositions
intellectuelles.
Le fait que ça tienne, c'est déjà une preuve de l'existence de Dieu. On croise parfois des hommes, employés ici ou qui sont des connaissances, mais notre vie est marquée par la présence féminine. Mais
natürlich ist unser ganzes Leben sehr von unserem Frauendasein bestimmt.
Je suis heureuse de ne pas avoir à me marier et je n'aimerais échanger ma place avec personne. En revanche, on fréquente régulièrement d'autres hommes dans d'autres couvents de la région et je trouve que ça nous enrichit beaucoup.
Vous avez un chien.
Lévi, L-E-V-I.
C'est pas comme chien.
Aus einem Tierheim in Ungarn.
C'était Hildegard de Bingen, quatrième épisode, et Dieu créa le matriarcat. Avec Laurence Moulinier, Geneviève Bureur-Thierry, François Boflug, Léo Henry, Benjamin Bagby, Sophie Janin et Margaret von Trotta. Un grand merci à Marion Ennis et Katia Zimmermann pour leur aide précieuse. Les visions, les lettres et les poèmes ont été lus par Marie Constant, Renaud Bertin-Cordoliani et Andrea Schiffer. Merci à toute la communauté des bénédictines de l'abbaye d'Hildegarde pour leur formidable accueil. Hildegarde, génie cosmique, une grande traversée d'Aurélie Sfèze, réalisée par Benjamin Hu. À suivre, épisode 5, Hildegarde Mania.